Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du 18 avril 2022, au sommaire de ce journal. Washington annonce un sommet mondial sur le Covid-19 le 12 mai prochain. La guerre en Ukraine, premier mort civil à Lviv, les combats continuent à Mariupol. Une centaine d'insurgés islamistes ont été tués dans la région du lac Tchad par une force conjointe du Nigeria, du Cameroun et du Niger. En Afrique du Sud, l'armée a déployé 10 000 soldats pour prêter main forte au secours après les inondations qui ont fait 443 morts. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. La Maison-Blanche a annoncé un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19 et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Prévue pour le 12 mai, cette rencontre virtuelle sera co-présidée par les États-Unis, l'Allemagne à la tête du G7, l'Indonésie à la tête du G20, le Sénégal à la tête de l'Union africaine et Belize à la tête de la CARICOM, regroupant la zone Caraïbe. Le sommet va redoubler nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aiguë de l'épidémie de Covid-19 et nous préparer à de futures menaces liées à la santé, ont indiqué ces pays dans un communiqué commun publié par Washington. Le président Joe Biden a organisé un sommet similaire le 22 septembre 2021, au cours duquel il a plaidé pour un renforcement de la vaccination dans le monde. Le taux de mortalité dû au Covid a diminué dans le monde, mais la propagation du virus, surtout son variant Omicron, empêche plusieurs pays de lever les restrictions. C'est le cas de la Chine, où des millions de personnes sont toujours confinées. Ce sera le second sommet mondial sur la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde et bouleversé l'économie mondiale depuis ses débuts en décembre 2019.
Au moins 7 personnes ont été tuées dans des frappes russes lundi sur Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Le président ukrainien a appelé son pays à ne rien lâcher, refusant de céder la cité portuaire de Mariupol. Le point avec Eric Manirakiza.
Les derniers défenseurs ukrainiens de Mariupol tiennent toujours des secteurs de la ville et ont refusé l'ultimatum lancé par les Russes qui a expiré dimanche à la mi-journée. Saboter les ordres des occupants, ne coopérez pas avec eux, vous devez tenir bon, a martelé le président Zelensky dans un message vidéo. La ville est soumise à des bombardements incessants depuis le début de l'offensive russe le 24 février. Dans l'Est, le président Zelensky a déclaré que les soldats russes veulent littéralement achever et détruire le Donbass. Le bombardement de la région de Lugansk se poursuit, a dans le même temps déploré son gouverneur ukrainien. Aucun couloir humanitaire ne sera mis en place lundi pour l'évacuation des civils des zones de combat dans tout le pays, ont annoncé les autorités ukrainiennes, accusant la Russie de bombarder des convois. Plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine selon le HCR. L'ONU estime aussi à plus de 7 millions le nombre de déplacés internes.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche s'être entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva au sujet de la stabilité financière de l'Ukraine et de la reconstruction du pays après la guerre. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré précédemment qu'il assisterait aux réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington cette semaine et qu'il chercherait à obtenir davantage d'aide financière pour l'Ukraine. Côté américain, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui représentera les États-Unis cette semaine lors du G20 Finance, va boycotter certaines sessions si la Russie y participe, a indiqué un responsable du Trésor américain. Le Conseil de sécurité, lui, se réunit demain mardi à huis clos pour discuter de l'escalade des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem. La France, l'Irlande, la Chine, la Norvège et les Émirats arabes unis ont demandé la tenue de cette réunion. Une nouvelle vague de violence a fait dimanche plus d'une vingtaine de blessés dans et autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, une force militaire conjointe du Nigeria, du Niger et du Cameroun affirme avoir tué plus de 100 insurgés islamistes, dont 10 commandants au cours des dernières semaines dans la région du lac Tchad. La force multinationale mixte intensifie son offensive terrestre et aérienne. Abdourahman Dia.
Selon le porte-parole de la force multinationale mixte, le colonel Mohamed Doll, les troupes ont avancé dans les enclaves contrôlées par les insurgés de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest dans la région du lac Tchad. Elles ont récupéré plusieurs armes, de la nourriture et de la drogue, a-t-il déclaré. Lors de cette opération, plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés, dont plus de 10 commandants de haut rang, à la suite de frappes aériennes menées dans les îles du lac Tchad, a ajouté le colonel nigérian. Mohamed Doll n'a pas précisé la période couverte par cette opération, mais il a indiqué que 18 soldats ont été blessés par des engins explosifs improvisés. Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest affrontent depuis plus de 10 ans l'armée nigériane dans un conflit qui a touché les États voisins. L'insurrection islamiste a fait des milliers de morts et a poussé des millions de personnes à quitter leur foyer pour trouver refuge dans des camps.
La junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé aujourd'hui avoir reçu pour les forces armées maliennes une nouvelle livraison d'équipements russes. La livraison porte sur 2 hélicoptères, des radars de 4e génération et d'autres équipements de combat, indique le compte Twitter des forces armées maliennes. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, a déclaré le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général. La junte malienne s'est rapprochée de la Russie en même temps qu'elle se détournait de la France. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale, CPS, chargée de juger les crimes de guerre et contre l'humanité depuis 2003, ouvre son premier procès demain mardi à Bangui. La CPS va juger Issa Saleh Tadoum, Ousmane Yaouba et Taï Mahmad, tous membres d'un des plus puissants groupes armés appelés les 3R, qui terrorisent les populations depuis des années. Ils sont accusés de massacres de 46 civils dans des villages du nord-ouest de la Centrafrique. La CPS a été créée en 2015 par le gouvernement avec le parrainage de l'ONU, mais ses travaux ont été lancés seulement en octobre 2018 avec les premières enquêtes. En RDC, 2 militaires congolais apparemment ivres ont tué au moins 15 personnes en 2 jours, l'un 7 dimanche en Ituri, l'autre 8 lundi dans le sud Kivu. Par ailleurs, dans la province voisine du nord Kivu, 6 personnes ont été blessées par une grenade lancée dans la foule par des militaires venus arrêter un jeune dans le village de Kizovu, dans le Masisi, a indiqué le secrétaire administratif de la localité de Burungu. Les provinces de l'Ituri et du nord Kivu sont en état de siège depuis mai dernier, une mesure qui a donné les pleins pouvoirs à l'armée et à la police, mais n'a pas permis de ramener la paix. L'armée sud-africaine a annoncé aujourd'hui le déploiement de 10 000 soldats après les inondations qui ont fait au moins 443 morts, privés des dizaines de milliers de personnes de leur foyer, causées de vastes destructions sur la côte est dans la région de Durban. Au moins 63 personnes sont toujours portées disparues. Les précisions de John Lyndon.
L'armée sud-africaine a reçu l'ordre d'activer 10 000 soldats dans le cadre de l'opération Chariot, a-t-elle déclaré dans un communiqué en soutien à l'effort de gestion de cette catastrophe sans précédent. Les soldats vont intervenir dans les recherches et le sauvetage, ainsi que dans les opérations de nettoyage et de transport d'équipements et de secours humanitaires. Près de 4 000 maisons ont été détruites par les intempéries, plus de 13 500 endommagés, de nombreux hôpitaux et plus de 550 écoles ont été touchées et des zones restent encore inaccessibles à cause des routes et des ponts coupés. L'armée prévoit également de distribuer de l'eau potable et de mettre en place des systèmes de purification d'eau et d'hébergement d'urgence pour ceux qui n'ont plus de toit. Un soutien médical sera également déployé avec la mise à disposition d'ambulances et du renfort en personnel médical.
En Somalie, des tirs de mortier revendiqués par les islamistes Shebab ont visé le Parlement ce lundi au moment où les législateurs étaient réunis dans le cadre d'un processus électoral devant déboucher sur la désignation d'un nouveau président. Des explosions ont été entendues en pleine session parlementaire diffusée en direct à la télévision. Plusieurs personnes ont été blessées, mais aucun élu n'a été touché. Et puis le chef du gouvernement italien Mario Draghi, testé positif au Covid-19, a décidé de renoncer à un déplacement prévu cette semaine en Angola et au Congo dans le cadre de la recherche de fournisseurs d'énergie alternatifs à la Russie. Il devait se rendre mercredi à Luanda, puis jeudi à Brazzaville. Il sera finalement remplacé par les ministres des Affaires étrangères Luigi Di Maio et de la Transition écologique Roberto Cingolani. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Moufa.
La Banque mondiale a réduit de près d'un point sa prévision de croissance mondiale cette année à 3,2% contre 4,1% en raison de l'impact attendu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon son président David Malpass, la banque a décidé de répondre au surcroît de tensions économiques en proposant un nouvel objectif de financement de 170 milliards de dollars sur 15 mois, dont 50 milliards à déployer dans les trois prochains mois. La cellule de sûreté d'Air France, KLM, organise à Nouakchott du 24 avril au 1er mai une série de rencontres avec des agences et responsables en charge de la sécurité aérienne. D'après Financial Afrique, l'objectif de ces rencontres est de contrôler l'ensemble des dispositifs mis en place pour assurer la sûreté et la sécurité de sa desserte mauritanienne, ainsi que les vols Air France KLM en provenance de Bamako, aussi bien en ce qui concerne les vols commerciaux, le fret ou la protection des équipages. La Compagnie nationale de pétrole en Libye a annoncé ce lundi l'arrêt des opérations sur le terminal pétrolier de Zouétina après la fermeture de plusieurs sites liés à des protestations sociales et des rivalités politiques. La fermeture de Zouétina va priver la Libye de l'exportation de près d'un quart de sa production. L'état de force majeure permet une exonération de la responsabilité de la compagnie pétrolière en cas de non-respect des contrats de livraison de pétrole.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Basketball Africa League pour commencer. La conférence Nil qui dispute ses matchs au Caire en Égypte désignera demain mardi tous ses quatre qualifiés pour les playoffs. C'est déjà acquis pour les Amalek d'Égypte, auteurs de quatre victoires en autant de matchs. La dernière hier 101-92 contre les Congolais d'Espoir Foukache. Les Angolais de Petro de Luanda y seront aussi, grâce à leur troisième victoire hier face aux Camerounais de FAP 73-60. Ce soir, les Camerounais de FAP justement sont en lutte avec Cobra Sport du Soudan du Sud pour l'une des deux places qualificatives restantes. Cette mission est très difficile pour les Congolais d'Espoir Foukache qui font présentement face aux redoutables Angolais de Petro de Luanda. Basketball toujours ici en NBA. Boston a pris l'avantage sur Brooklyn 115-114. En ouverture de son premier tour des playoffs, Miami finaliste en 2020 a donné une leçon de basket 115-91 à Atlanta. À l'ouest, Phoenix, meilleure équipe de la saison régulière, a fait respecter la logique face à la Nouvelle-Orléans 110-99. Athlétisme, la Kenyane Peres Chepchichir remporte en 2h21 le 126e marathon de Boston. Elle devance de justesse l'Éthiopienne Ababel Yeshanei, 2h21 05 secondes. La Kenyane Marie Wasira Ngugi complète le podium. C'est la première victoire à cette course américaine pour celle qui a été championne olympique à Tokyo l'an passé. La coureuse de 28 ans a décroché sa cinquième victoire consécutive depuis 2019 et sa deuxième dans un marathon majeur après celui de New York en 2021, les quatre autres étant Berlin, Tokyo, Londres et Chicago. Victoire kenyane également chez les hommes. Evans Chebet s'impose en 2h06 51 secondes. Arrivé en solitaire, il a devancé deux compatriotes, vainqueurs des deux précédentes éditions, Lawrence Chirono en 2019 et Benson Kiproto en 2021. Chebet décroche ainsi à 33 ans sa première victoire dans un marathon majeur. Football, en Guinée, on en sait un peu plus sur les candidats pour le poste de sélectionneur d'Isili National. Ouvert uniquement aux techniciens guinéens, ils sont finalement quatre à déposer leur dossier de candidature. Les deux anciens entraîneurs Kaba Diawara, qui a dirigé la sélection à la dernière CAN, et Kanfori Lapé Bangoura en poste entre 2016 et 2018. Les autres candidats, Morlaï Souma, ancien capitaine de la Guinée, et Moussa Théa, qui a entraîné en Angleterre. Une commission se réunira ce mercredi pour décider qui sera le prochain sélectionneur du Sili national.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, les familles biologiques et politiques du défunt maréchal Idriss Déby Itno commémore l'an 1 de sa disparition brutale. Son décès est survenu à la veille de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle pour son sixième mandat, où il était donné gagnant au premier tour par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Réaction des Tchadiens un an après cette tragédie, dans le reportage d'André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, dans la capitale tchadienne.
Décédé sur le champ de bataille le 20 avril 2021 au nord Kanem suite à l'assaut lancé par les rebelles du FAT, les Tchadiens se rappellent encore de cet homme qui a dirigé le pays pendant 31 ans.
Physiquement, Déby est mort, mais son système politique est resté intact.
Quand il était là, même on était vraiment souffrant. Et maintenant, il est mort. Peut-être qu'il y aura changement. Nous pensons comme ça, mais désolé, c'est le calvaire que nous vivons.
C'est un président qui pensait quand même tourner la page du Tchad. Mais certains ne comprenaient pas l'idéologie de Déby. C'est vite difficile à combler.
Pour le peintre Dounian Togiangare, écrivain panafricaniste et libre penseur, Déby a fait beaucoup d'erreurs pendant son règne qu'il devrait corriger avant de mourir.
Vous gérez le pays pendant 31 ans et le pays tombe dans une crise généralisée et vous-même vous tombez brutalement. C'est vraiment pas bon pour Idriss Déby en tant que tel et aussi pour le pays qu'il a dirigé. J'ai retenu une chose que la première dame de l'époque a dit. Elle dit que le maréchal est parti et nous a laissé dans un désert mouvant. Mais c'est vrai.
La disparition du président Déby est non seulement une perte pour les Tchadiens, mais aussi pour toute l'Afrique, déclare au micro de VOA Afrique Abdelkader Babalade, ex-chef rebelle, aujourd'hui secrétaire général adjoint du ministère en charge de la sécurité publique.
Aujourd'hui, en Afrique, si vous êtes un Tchadien, vous êtes respecté. Pour lui, ce n'était pas seulement le Tchad, mais toutes sortes de désordres dans la sous-région, il n'acceptait pas. C'est non seulement un homme de conviction, c'est un homme d'État.
Pour Louise Ngaradombri, présidente du parti Rassemblement pour le progrès et la justice sociale, estime que le président Déby n'a pas maîtrisé son administration.
C'est vrai que c'est un homme d'État, mais il a laissé le pays à la portée de son clan. L'armée est devenue une armée pour la défense des individus qui sont au pouvoir. Et l'insécurité a régné. Et c'est par suite de cette insécurité qu'il est tombé. Voilà la triste réalité.
L'ancien député de l'opposition, Baye Samuel Diaounadi, dit qu'il ne regrette pas sa disparition.
Depuis nous a créé du désordre. Si aujourd'hui on est dominé par des éleveurs acquis à la cause du pouvoir, qui empêchent à mes parents de cultiver comme ils se devaient, si ce n'est pas lui, qui sera l'origine?
Abdraman Diasnabaye, ambassadeur de la paix et ancien ministre des droits de l'homme sous le règne du feu président Déby, souligne que la responsabilité est partagée.
Je pense que le domaine qu'il maîtrise le mieux, c'est le domaine militaire. L'aspect administration, c'est le comportement des Tchadiens. Les Tchadiens n'ont pas pris leur pays, le Tchad, comme objectif. Chacun cherche ses propres intérêts. Donc on ne peut pas dire que la faute revient essentiellement au défunt maréchal, non. C'est à tous les Tchadiens.
Les militants du parti et les membres de la famille du feu maréchal Déby se retrouvent tous à Amdjaras, son village natal, où sa dépouille mortuaire se repose depuis une année pour une cérémonie de levée des déis. André Kodouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Tchad, un an après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. L'ancien dirigeant tchadien a été tué au front le 20 avril 2021 et aussitôt remplacé par son fils, le général Mahamat Déby Itno. Pour l'opposition, c'est la continuité du système Déby alors que le pouvoir poursuit des pourparlers difficiles avec des groupes politico-militaires au Qatar en prélude au dialogue national prévu le mois prochain. Quel est l'héritage d'Idriss Déby pour le Tchad et la région? La transition menée par son fils était sur les rails pour une remise du pouvoir à un gouvernement élu. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'Afrique peine à tirer profit de ses minerais qu'elle exporte majoritairement à l'état brut, alors qu'elle totalise un tiers des réserves mondiales de bauxite, cuivre, cobalt et chromite. En Guinée, le gouvernement exige la transformation locale de la bauxite avec construction de raffineries d'alumine. La RDC aussi veut transformer localement ses minerais. Que doit faire l'Afrique pour tirer le meilleur parti de ses ressources minières? Nani Talani a joint Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, spécialisée sur des questions d'économie et de finances.
Déjà, pour transformer une matière première, il faut avoir une idée du projet de transformation. Les chaînes de production et les chaînes d'utilisation ont été développées sur des marchés extérieurs. Et aussi, aujourd'hui, pour que l'Afrique puisse vraiment transformer ses matières premières, il faut qu'il y ait un cadre industriel de base qui se compose d'usines, qui se compose d'énergie, qui se compose d'infrastructures d'évacuation des produits qui auront été transformés, qui se compose aussi d'une certaine compétence dans les processus de transformation. Donc, ceux qui savent à quoi ces matières peuvent être utilisées de manière définitive sont notamment des personnes situées dans les pays occidentaux ou aujourd'hui de plus en plus la Chine.
Peut-on corriger tous ces manquements?
Tout est corrigible, hein. Je veux dire, c'est pas une situation qui est innée. Je veux dire, aujourd'hui, la Chine qui transforme la bauxite en alumine, forcément, n'a pas commencé à utiliser de l'aluminium il y a 50, 30, 60 ans. Les États-Unis, qui sont devenus champions en transformation de certains produits, ne le faisaient pas il y a encore 1000 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, l'avantage, c'est que le processus industriel ne passera pas par une série d'essais qui vont être soldés par des échecs. La connaissance universel est aujourd'hui disponible.
Quel est l'intérêt de l'Afrique à transformer localement ses minerais?
L'Afrique a tout intérêt à transformer ses ressources, non pas seulement pour le marché international, parce que le marché international, il est comme il est. Mais même déjà en Afrique, rien que le besoin en alumine, en acier, en ciment, en goudron, pour mettre un réseau de routes efficace en Afrique, doublerait la demande en produits finis. L'Afrique peut aujourd'hui mettre des processus industriels. Évidemment, le seul problème, c'est que cela demande qu'il y ait des politiques, aussi bien publiques que des politiques émanant de stratégie d'entrepreneurs privés, et naturellement ces choses-là manquent encore sur le continent.
Vous dites que l'offre mondiale pourrait augmenter de 30 à 40%, mais quel sera le bénéfice pour les Africains eux-mêmes?
Rien que les besoins de l'Afrique en termes d'infrastructures, en termes de logement, en termes même de création d'emplois, et même pour alimenter son marché unique que le continent est en train de créer. Il faudrait que l'Afrique ait des usines. Il faudrait que l'Afrique ait des structures de montage de camions, que l'Afrique construise des routes, des chemins de fer, et que sur ces chemins de fer, il y ait des habitations, qu'il y ait des stations-service. Donc, rien que pour les besoins de développement de l'Afrique, il faudrait déjà qu'elle transforme ses matières premières. Le surplus serait vendu sur le marché international pour générer des devises.
Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Au Burkina Faso, une initiative qui depuis 15 ans lutte contre la drogue, la caravane dénommée Oskimo Tour Jeune Propre Sans Drogue est un événement porté sur les fonds baptismaux par le musicien Issouf Sawadogo, dit Oskimo. La caravane a été lancée depuis une semaine et va parcourir cette année des établissements scolaires du pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le lancement de la caravane Oskimo Tour Jeune Propre Sans Drogue se fait ici au lycée Rialé de Tenkodogo dans le centre-est, à près de 200 km de la capitale. Oskimo Tour est une caravane de sensibilisation sur la drogue en milieu jeune. Le thème de cette 15e édition, zéro consommation de drogue en milieu scolaire. Je m'engage. Des élèves apprécient l'initiative.
Au Skimotu, bon, la caravane, bon, je vois que le départ même, ça nous influence envers ce qu'ils ont dit. On nous a donné des sujets qui nous touchent beaucoup, social aussi, à la maison. Bon, zéro drogue, je m'engage. Je pense que le message a été bien passé.
Cette caravane a été d'une très grande importance pour les élèves du lycée Rialé. Promouvoir zéro drogue en milieu scolaire est vraiment une très bonne idée parce que, bon, ça nous prépare déjà à combattre déjà les fléaux de la société.
Cette milieu scolaire est beaucoup aujourd'hui infecté par la consommation de la drogue des élèves.
Issouf Savadogo, dit Oskibo, est le promoteur de la caravane.
Le choix de Tenkodogo aussi, c'est le centre-est. C'est une zone frontalière au moins trois pays. Tu as le Togo, le Bénin, le Ghana. Donc, et récemment, il y a eu une grande saisie de drogue ici. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas venir sensibiliser cette jeunesse-là, surtout les élèves qui sont des pionniers de demain. Par rapport à l'accompagnement, vous voyez, nous sommes venus ici, ce n'est pas facile. L'année est difficile, le pays est en difficulté. L'État burkinabé doit s'impliquer davantage si on veut gagner d'autres vrais combats, qui est le terrorisme ou l'insécurité. Il faut gagner ce combat de lutte contre la drogue et de la sensibilisation.
Et les services de douane se sont engagés auprès du promoteur. Moulay Jean Dambélé, inspecteur divisionnaire des douanes, directeur régional des douanes du Centre-Est.
Déjà au niveau des frontières et dans la vie de tous les jours, les douaniers luttent au quotidien, non seulement pour les recettes, mais contre tout ce qui est néfaste à notre société. Nous sommes à peu près à 280 000 tonnes pour ce pays et c'est ça ce qu'on a pu prendre. Et ce qu'on n'a pas pu prendre, c'est compliqué.
La caravane au Skimotour Jeune Propre Sans Drogue, qui a commencé début avril, va se poursuivre jusqu'à fin mai. Elle va traverser au moins 6 villes et plusieurs établissements scolaires du Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les responsables ukrainiens ont annoncé que leurs forces dans la ville assiégée de Mariupol n'adhéreront pas aux demandes russes de se rendre. Ils demandent également plus d'aide de la part des alliés occidentaux. Reportage Arash Arasabadi, le récit est de Ginny Kapumbu-Villa.
Dimanche de Pâques au Vatican, en ce qui devrait être le jour le plus joyeux du christianisme, le pape François a plutôt exprimé sa douloureuse solidarité avec le peuple ukrainien. Le pontife s'est adressé à une foule d'environ 50 000 personnes, telle que transmis par les médias du Vatican.
Je porte dans mon cœur toutes les nombreuses victimes ukrainiennes, les millions de réfugiés et des personnes déplacées, les familles divisées, les personnes âgées livrées à elles-mêmes, les vies brisées et les villes rasées. Je vois les visages des enfants orphelins qui fouillent la guerre.
Non habituamoci alla guerra.
Le pape François poursuivit en disant que les victimes de la guerre non provoquée de la Russie contre l'Ukraine partagent la souffrance de ceux qui, dans le monde entier, meurent de faim ou manquent de soins médicaux. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans la ville portuaire assiégée de Mariupol. Les forces russes ont réduit une grande partie de cette ville en décombres après des semaines de bombardements. Les responsables ukrainiens disent que pas moins de 20 000 civils sont morts rien qu'à Mariupol. La prise de Mariupol pourrait donner aux forces russes une victoire stratégique pour se lier pleinement aux troupes de la région du Donbass. Dimanche sur ABC This Week, le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que les soldats du Mariupol se battraient jusqu'au bout, ajoutant que les civils en ont fait les frais.
Civilians.
Les civils qui souffrent depuis plus de 40 jours de cette crise humanitaire dans cette ville assiégée n'ont ni eau, ni nourriture, ni chauffage, ni électricité. Et nous demandons à tous nos partenaires de soutenir et d'aider à arrêter cette catastrophe humanitaire à
Mariupol.
La dévastation dans des villes comme Mariupol souligne les défis de l'acheminement de l'aide humanitaire dans une zone de guerre active. Dimanche sur CBS Face the Nation, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial de l'ONU, David Beasley, a déclaré qu'il n'était certain que le programme puisse maintenir les lignes d'approvisionnement alimentaire.
We're reaching millions of people
Nous atteignons des millions de personnes, nous et tous les partenaires de la communauté internationale ici à l'intérieur de l'Ukraine. Mais il y a des endroits que nous ne pouvons pas atteindre comme Mariupol et d'autres endroits où les forces russes ont assiégé la ville et ne nous permettent pas l'accès dont nous avons besoin. Si nous obtenons l'accès, si nous éliminons les conflits entre ces points d'accès, nous pouvons atteindre chaque personne qui souffre et lutte pour se nourrir.
Le ministère russe de la Défense, qualifiant les combattants ukrainiens à Mariupol de mercenaires d'Europe et du Canada, affirme que la plupart des résistants sont morts ou ont fui le pays. La Russie a récemment intensifié ses attaques contre des cibles militaires ukrainiennes en probable représailles au naufrage du vaisseau amiral russe de la flotte de la mer Noire, le Moskva, vu ici dans des images d'archives. La Russie a affirmé qu'un incendie à bord a causé le naufrage du navire, mais les États-Unis soutiennent l'Ukraine qui s'attribue le crédit pour l'envoi du croiseur au fond de la mer Noire.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute.